rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose de manière fortuite ou non sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre.
Début juillet, je me suis rendue au Festival d'Avignon. Léo Cohen-Paperman, metteur en scène et auteur du Dîner chez les Français de Valérie Giscard d'Estaing, m'a accordé une interview. Lecture du prologue de la pièce. La salle à manger d'une vieille ferme normande, trois portes, entrée, cuisine, toilette. Une table est dressée au centre. À jardin, un poste de télévision. À cour, un parc pour enfants. Entre José, il s'adresse au public. Bonsoir, je m'appelle José Corigny. Je suis né le 13 octobre 1973. J'ai un an. Depuis ma naissance, c'est la crise. Crise pétrolière, crise économique, crise morale. Tout se transforme. Dans ce grand vent de nouveautés radicales, le pays vient d'élire son premier président modéré. Conservateur et progressiste, il s'appelle Valéry Giscard d'Estaing. Il dit qu'il veut regarder la France au fond des yeux. Alors il propose, accompagné de son épouse, Anne Aymon, de s'inviter à dîner chez les Français. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Vous allez assister au dîner chez les Français de Valéry Giscard d'Estaing. Attention, dans ce spectacle, tout ce qu'on mange est politique. Tout ce qu'on boit est politique. Tout est politique. Nous sommes dans la ferme de mes grands-parents Deschamps, dans le Calvados, à Criqueville en Bessin. Et cette maison, c'est la France. Nous sommes le 31 décembre 1974, il est 19h13, c'est le soir du réveillon du Nouvel An et il va durer 7 ans. 7 années désordonnées comme des souvenirs d'enfance, 7 années manipulées par mes soins comme un accordéon. 5, 4, 3, 2, 1.
Alors, bonjour Léo Cohen-Paperman, merci de répondre à mes questions. Donc, vous avez fait une mise en scène et une écriture hein, sur ce que vous avez appelé les huit rois, qui sont huit présidents de la République. D'où vient l'idée de travailler sur ces présidents de la République et pourquoi les avoir appelés des rois ?
Plusieurs choses. La première, c'est que il y a une raison personnelle qui est que mon père était journaliste politique, qu'il est décédé il y a 12 ans et je dirais que c'est une manière de poursuivre un dialogue avec lui parce que c'est un monde que j'ai pas, c'est pas un monde que j'ai pu connaître, mais il me parlait beaucoup de ces choses-là à la maison quand j'étais petit, c'est un héritage pour moi. L'autre chose, et la plus importante, c'est que mon obsession, c'est la question du théâtre populaire, de comment on peut faire des spectacles où le public se sente à la fois concerné, où ils prennent du plaisir, même quand ils sortent d'une journée de travail, où on partage quelque chose avec les gens. Et je pense que ce sont des figures que... on partage, qu'on les aime ou qu'on les déteste, voilà. Mais il y a quelque chose où, même si on ne les a pas connus, on a les récits de ses parents. Ce sont des figures, les présidents de la Ve République, qui nous marquent. Et donc, c'est le ferment d'un théâtre populaire, en tout cas, c'est ce que je crois. L'exemple qu'on cite souvent avec Julien Campagny, avec qui j'écris la série, c'est Shakespeare, quand il écrit Richard III... les gens, les grands-parents des spectateurs ont connu Richard III. Donc c'est un roi qui a marqué les affects des gens qui sont dans la salle, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, ça nous renvoie à la fois à notre propre histoire, où est-ce que j'étais le 10 mai 1981. On se souvient de ces grandes dates pour les gens de ma génération, où est-ce que j'étais le 11 septembre 2001 ou le 13 novembre. Et en même temps, ça nous permet de nous poser la question de ce dont on a hérité de ces hommes politiques. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette série. Et par ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est que donc il y a 8 rois, entre guillemets. Pourquoi des rois ? Parce que quand De Gaulle il fait la constitution de la 5ème République, il a une phrase que je trouve géniale et très vraie. Il dit « J'ai résolu un problème de 150 ans ». C'est-à-dire qu'en fait, comme il y avait des... Comment dire, le parlementarisme de la 4ème République avait mené quand même à la guerre de 40, à la guerre d'Algérie. Enfin, voilà, les républiques parlementaires avaient. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas avec ça en France. Voilà. Et donc, ils décident de rétablir une verticalité dans le pouvoir avec des contrepoints, c'est-à-dire deux contrepoints. Le premier, c'est le. Comment dire, le premier, c'est l'élection du président au suffrage universel qui n'arrive pas tout de suite et contre laquelle beaucoup de gens se battent à ce moment-là, alors que c'est le lien direct entre le roi, entre guillemets, et son peuple. Le deuxième, c'est l'expression populaire régulière avec des référendums. Je crois que De Gaulle, il fait 7 référendums dans son mandat, c'est important. Et la troisième, c'est le fait que les élections législatives ont lieu à mi-mandat présidentiel. Ce qui fait qu'en fait, c'est un deal, la 5ème République, normalement. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus vraiment en 5ème République. C'est un deal qui fait que les gens acceptent un pouvoir plus vertical pour que le pays soit gouvernable, en théorie. En échange de quoi mais en échange, ils peuvent s'exprimer régulièrement. Et le sous-entendu qui n'est pas inscrit dans la Constitution, mais que De Gaulle avait pratiqué, c'est que si l'expression populaire est défavorable au président, il s'en va. C'est ça le principe. Et donc je trouve que ça, tout ça produit en fait cette verticalité, ça produit des figures, ces présidents dont on se souvient et qui imposent une vision du monde. Et c'est pour ça que j'ai décidé que chaque président aurait son expression artistique. Donc De Gaulle c'est un opéra, Sarkozy sera du stand-up, Hollande du clown, Macron c'est de la science-fiction. Enfin voilà, chaque président son style, ça c'est important dans la série, mais c'est parce que c'est une manière d'interpréter au théâtre ce qu'est la 5ème République. Et d'autre part, la série raconte l'histoire d'une famille française. C'est 8 rois, entre parenthèses, nos présidents, parce que ce sont les nôtres, parce que nous les avons élus, les Français et les Françaises. Et on raconte l'histoire d'une famille française sur 4 générations, de 1958 à 2058, même sur 5 générations donc. Raconter ce qu'on voit, nous, à notre endroit, des bouleversements de la société française. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle 8 rois de nos présidents.
Alors, comment est-ce que vous avez pour... Donc, je vais parler d'abord de Giscard, le dîner chez les Français. Vous posez des questions d'abord là-dessus, sur cette magnifique pièce, bravo, hein, vraiment, qui est extrêmement... à la fois drôle j'ai pas d'autre mot que c'est une, j'ai reçu un peu comme une claque, une espèce de gifle, quelque chose qui aussi vient nous bouleverser. Comment est-ce que vous avez choisi de travailler à partir de ce dîner chez les Français ?
Y a une part d'intuition au départ, parce que je me demandais, mais qu'est-ce qui est emblématique chez Giscard ? C'est ce dîner chez les Français. Ça nous donne en même temps une situation théâtrale très claire, c'est-à-dire le mandat, le dîner, c'est le mandat, donc le dîner dure 7 ans. Et ça permettait par ailleurs d'accoucher d'un genre esthétique théâtral clair aussi, qui est le vaudeville, ce théâtre avec lequel on s'amuse, c'est-à-dire des années 70, un théâtre assez bourgeois, avec un décor très vieillot, avec une manière de jouer vraiment. On s'est amusé avec ce code-là parce que, en fait, nous, je crois, dans la troupe d'acteurs, d'actrices avec qui je travaille, on a aussi beaucoup d'admiration pour ces grandes figures du théâtre du boulevard, comme Jacqueline Maillan, par exemple. Enfin, voilà. C'était intéressant pour nous de travailler à cet héritage-là aussi. Et par ailleurs, on s'est rendu compte que. Comme je disais, ça donne une structure dramatique claire, c'est-à-dire qu'en gros, la maison, c'est la France, la famille, c'est les Français, et le président et son épouse, c'est le roi et la reine. Et donc, à partir de là, on pouvait tout métaphorisé, tout déroulé. C'est-à-dire que le repas devient la métaphore de la musique du pouvoir. C'est-à-dire que, par exemple, la soupe de Cresson, c'est la légèreté de Giscard quand il arrive, le fait qu'il veut alléger les institutions, qu'il veut alléger le décorum, qu'il a envie de moderniser tout ça. Le sanglier infini où on se resserre, c'est la relance. Le bar qui rétrécit en tout petit, c'est la rigueur. Le fromage, c'est les contradictions propres au pouvoir giscardien qui fait qu'il finit par mécontenter tout le monde, la gauche comme la droite. Le dessert, c'est la vengeance des gens. Ce qui est intéressant quand on étudie les présidents de la 5e, c'est qu'en fait, ils commencent tous comme des hommes providentiels et finissent tous comme des boucs émissaires. C'était le cadre dramatique parfait pour ce qu'on voulait faire. C'est pour ça qu'on a choisi cette situation-là.
Et alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi qui est... Enfin là, moi, c'est ce qui m'a fait penser aussi à la tragédie, hein, c'est que y a un narrateur. et pourquoi est-ce que le narrateur est un bébé, même si c'est un adulte, mais pourquoi est-ce que... Enfin, c'est un bébé qui grandit, hein, d'ailleurs, effectivement, qui a un an au début et 8, si je ne me trompe pas, à la fin.
Comme je disais, la série déploie un arbre généalogique, en fait, une famille française sur 4 générations. Donc, par exemple, ce José Corigny, vous le retrouvez qui est le bébé, vous le retrouvez dans le spectacle sur Chirac. Michel et Marie-France, vous suivez leur histoire dans le Mitterrand. En fait, chacun de ces personnages n'est pas choisi au hasard parce qu'il incarne quelque chose sur le plan historique et politique. C'est-à-dire que José, par exemple, il est né en 1973, le jour du choc pétrolier. Donc il raconte cette génération qui est née au début des années 70 et qui est la première à être née post-30 glorieuse. Donc qui va connaître la crise comme un état structurel de la crise économique, la crise de manière générale, pas seulement économique, comme un état structurel de la société. Michel, c'est l'ouvrier communiste qui va se faire... d'une certaine manière cocufié par la gauche mitterrandienne et qui va finir par voter Rassemblement National. Marie-France, c'est cette gauche socialiste qui va triompher avec la mondialisation. Marcel, le grand-père, c'est le conservatisme, gaulo-conservateur, on va dire. Et sa femme Germaine, qui est un petit peu plus jeune, c'est le centre-droit. Et ça permet de... L'idée, c'est que chacun de ces personnages permette de dire quelque chose des champs de force politique et de la société. Voilà, chacun de personnages, on essaye d'en faire des êtres de chair, évidemment. Et en même temps, on veut qu'ils soient emblématiques de quelque chose sur le plan historico-politique. Voilà. Et puis, en plus, le fait de faire raconter le dîner par un enfant joué par Julien, avec qui j'écris le spectacle, et qui fait 1m85... ça crée tout de suite une étrangeté, tout de suite quelque chose qui n'est pas dans le réalisme, tout de suite quelque chose qui est ludique. Et donc, ça nous amusait aussi de comprendre comment on pouvait faire grandir un enfant tout au long du spectacle, c'est-à-dire que l'enfant est le témoin du temps. Voilà, c'est pour toutes ces raisons qu'on a décidé de faire ça.
Oui, mais aussi, à part une fois où il fait un discours, il ne s'exprime pas un petit peu comme sont les enfants quand même encore aujourd'hui à table.
On comprend que c'est par lui qu'on voit le spectacle. C'est le rôle du témoin. C'est aussi un rôle qui concrètement a permis à Julien, en tant que co-auteur, de voir ce qui se passait au dîner. C'est important. C'est ce rôle de témoin qu'on a dans un peu tous les spectacles, c'est-à-dire que ces présidents, ils nous parviennent par l'entremise de quelqu'un, par le point de vue de quelqu'un. On les représente pas gratuitement, on ne dit pas que ce sont des vérités révélées qui tombent du ciel, ils sont racontés par un narrateur ou une narratrice. Et donc là, en l'occurrence, c'est un enfant qui a un an au début du repas et 7 à la fin. Voilà.
Alors, j'avoue que les personnages sont tellement réalistes, même si effectivement on voit bien qu'on est tout le temps au théâtre, hein, il y a tout le temps des mises en abîme, etc. Et ben, je les ai googlisés, les personnages. Évidemment, je ne les ai pas trouvés, enfin, à part Giscard, hein, et sa femme, mais, et les discours qui sont prononcés, qui sont bien là, mais Il y a des choses que j'ai retrouvées en fait par rapport aux paroles qui ont été dites, mais les personnages n'existent pas. Je trouve ça extraordinaire que vous leur ayez donné vie comme ça.
Alors c'est une écriture, la particularité du Giscard, c'est que c'est une écriture de plateau, c'est-à-dire que on est arrivé avec Julien devant les acteurs du spectacle et on leur a dit ça sera un dîner qui va durer 7 ans, etc. C'est vous qui allez, on leur a donné une structure dramatique, articulée autour du menu, d'événements qu'on a trouvés au fur et à mesure des répétitions. Et le principe, c'est qu'ils improvisaient et que pour ça, ils se sont documentés eux-mêmes. Et ils se sont servis de leur propre histoire. C'est-à-dire que le grand-père, Joseph qui joue le grand-père normand, Joseph Forest, il est d'origine normande, donc cet accent-là, il le connaît. Je pense que Clovis qui joue Michel est allé chercher dans ses racines familiales avec ses grands-parents très communistes, etc. Enfin, voilà. L'idée c'est de, on travaille chacun avec un héritage, avec aussi des documentations. Ils sont beaucoup beaucoup documentés pour savoir ce que c'était qu'être agriculteur dans les années 70, comment la paysannerie s'est transformée en agriculture justement. Avec la fin des bocages dans le paysage normand, ce que ça induit comme rapport à l'agriculture. Enfin, voilà, ils ont énormément travaillé pour justement arriver à faire vivre ces personnages-là et ensuite pour pouvoir improviser. Et ensuite, ça a été à Julien et à moi de faire, comme on dit en cuisine, une réduction de sauce quoi, pour que tout soit... pour qu'on arrive à rendre tout cohérent sur le plan dramatique. Quoi. Voilà.
Et alors du coup, comment est-ce que vous avez choisi les chansons qui sont particulièrement bien choisies ?
Alors, les chansons viennent aussi pour certaines des acteurs. Voilà. On s'est dit, on est arrivé comme ça le premier jour de répétition, on leur avait demandé de choisir des chansons de ces années 74 à 81. Il y a juste cette contrainte-là, c'est vraiment des chansons de l'époque. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est que ce soit des gros tubes que tout le monde connaisse, parce que ça permet de partir d'une mythologie commune et là encore de se poser la question de ce qui est populaire. Quoi. Les gens aiment retrouver ces chansons. Mais en même temps, on les a fait réarranger là, par Jérémy Arcache pour qu'on puisse en entendre mieux le texte. Et parce qu'en fait, elles ont été choisies à ce moment-là parce qu'elles racontent quelque chose de l'état, de la société ou du personnage. Et la difficulté, c'était de trouver d'ailleurs des chansons qui ne soient pas seulement des petites expressions psychologiques, et en même temps, qu'il ne soit pas seulement politique. Donc, en fait, voilà, la balade des gens heureux, parce que Giscard, c'est une grande ode pour lui, si on se place de son point de vue, c'est un grand renouveau, c'est un grand moment de concorde et d'unité, et il est très heureux. Comme les rois mages en Galilée de Sheila pour Germaine, ça parle de l'amour qu'elle a pour le président, d'une espèce de fanatisme presque religieux. Il ne rentre pas ce soir, d'Eddie Mitchell, ça parle du chômage, mais pas seulement de la désespérance intime que ça peut provoquer. Si j'étais un homme, ça nous raconte les frustrations d'une société qui va dans l'individualisme. Alexandrie Alexandrin, c'est j'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Alors Marcel, il a faim à ce moment-là, c'est un ogre. Le dernier, c'est Ça plane pour moi, qui raconte la naissance du punk, le moment où quelqu'un veut essayer de triompher de la société et en même temps l'inquiétude que ça peut générer, quoi, le fait de ne plus être dans le bonheur différé, justement, comme dit Julien, c'est-à-dire d'être dans la jouissance ici et maintenant. Quelles en sont les conséquences? Et la dernière chanson de Michel Fugain, attention mesdames et messieurs, ça a commencé, c'est vraiment la chanson d'un narrateur, d'un témoin, d'un monsieur loyal. Et voilà, et en fait, le fait de les réarranger, je trouve, fait qu'on réentend le texte de ces chansons, les textes de ces chansons. Voilà.
Effectivement, c'est exactement les textes, parce que je me suis posé la question. Ça, j'ai pas été vérifié.
La plupart du temps, oui. Après, on s'est amusé là, pour Avignon d'ailleurs, à remodifier un peu. Par exemple, Marie-France, on a décidé de mêler la chanson à des slogans de 68, mais pas des slogans sociaux, des slogans... je dirais plus individualiste, plus libertaire, voilà. pour montrer qu'elle est vraiment une fille de 1968, en fait, qu'elle est et qu'elle va plus tard, on le voit dans le Mitterrand, d'une certaine manière, appliquer le libertarisme-là à sa propre vie. Et la chanson de José, attention mesdames et messieurs, est un peu modifiée aussi pour trouver des résonances poétiques, je dirais, avec le spectacle.
Et alors le concept de bonheur différé que j'ai découvert dans cette pièce, vous l'avez découvert en écriture aussi ou c'est quelque chose?
C'est en lisant Jean-François Sirinelli, un historien qui parle de cette période-là comme ça. Nous, c'est la matrice intellectuelle du spectacle, c'est-à-dire ce qui est frappant, je trouve, c'est que en gros, 1974, c'est le moment où la pratique du catholicisme s'effondre en France, complètement. Elle a commencé à s'effondrer 20 ans, mais elle arrive à son terme, d'une certaine manière. C'est le moment où 68 et 6 ans plus tôt, donc 68, on en voit les effets, les conséquences, d'une certaine manière, dans la société. C'est le moment aussi de l'effondrement du Parti communiste, qui est vaincu en fait par Mitterrand, mais donc qui porte autre chose. Et le point commun, je trouve, qu'il y avait entre le Parti communiste et l'Église, c'est que c'est deux structures qui encadrent la vie du berceau à la tombe. D'ailleurs, on s'est amusé à regarder, mais quand on regardait les chiffres des baptêmes dans les communes, là où des endroits assez communistes, en fait, il y a beaucoup de baptêmes. C'est-à-dire que c'est assez contre-intuitif, mais en fait, ça répondait à... Le communisme est une façon de sortir de la religion tout en gardant une structure et un cadre, et pas laisser les gens seuls et totalement libres avec le vide, quoi. Ce qui nous a passionnés, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est fou de se dire que quelqu'un comme Marcel, qui est né en 1905... En 1974, il n'est plus du tout dans la même France. C'est beaucoup plus vertigineux que pour moi qui suis né. Alors moi, le monde a changé, il y a eu l'arrivée du numérique et tout, mais je pense que c'est beaucoup plus vertigineux pour quelqu'un qui est né en 1905 de se retrouver en 1974, sur le plan sociétal, sur le plan des mœurs notamment, mais aussi sur le plan même des paysages, sur le plan... Il y a une transformation totale, et d'une certaine manière, sa fille qui allait étudier à Paris... Il y a une fracture immense, quoi, entre ces générations-là. Et donc, c'est intéressant de... Oui, pour nous, c'est ça qui est intéressant. C'est comment est-ce que cette vieille génération de Germaine, Marie-France, mais aussi de Michel, c'est-à-dire c'est des gens qui ont besoin que la société les cadre par une structure, comment ces gens-là vont se retrouver, en fait, les perdants de l'histoire face à... je dirais un libéralisme à la fois économique et de mœurs. Voilà. Et ça, je trouve ça passionnant parce que ça, c'est au-delà de l'anecdote politique, ça nous questionne sur, vous savez, l'étymologie du religion, c'est religaré, relié. Donc c'est ça questionne en tout cas le besoin d'enracinement, de structure des hommes, des femmes. Et je pense qu'au fond, c'est vraiment ça qui nous intéresse, c'est-à-dire comment est-ce que ces gens-là qui ont le sentiment de faire une société en 74, en fait en 81, ils sont au moins très divisés en deux, voire en quatre. Parce que on touche presque, c'est plus seulement politique, là c'est presque ontologique, ça renvoie à une vision de l'existence, quoi. Je pense que pour quelqu'un comme Marcel ou même Germaine, c'est pas possible de vivre sans qu'il y ait une instance de contrôle supérieure qui permette de réguler les rapports entre les gens, quoi. Voilà. Et ça, c'est une question qu'on peut se poser encore aujourd'hui. Je veux dire, c'est vrai qu'on est pris entre deux feux, mais même sur le plan, je veux dire, écologique, se dire qu'on doit... L'avantage du bonheur différent, entre guillemets, c'est qu'on travaille aussi pour les générations d'après. Puisqu'on ne doit pas tout donner à sa propre jouissance de son vivant. Alors, ça donne des sociétés extrêmement corsetées, c'est ça qui est désagréable, mais c'est ça le paradoxe, et c'est ça qui m'intéresse là-dedans profondément sur le plan intellectuel. C'est parce que c'est une impasse, en fait. Et comme c'est une impasse, c'est parce que je crois qu'on a besoin de structure, mais parce qu'en même temps, on est surtout en Occident, on supporte plus ces structures. Enfin, moi, si on me disait que je dois me remettre dans une structure religieuse maintenant, je crois que je serais pas très content. Mais on sent pourtant qu'il y a un vide. On sent qu'on est projeté seul et que et on sent aussi les limites du tout ici et maintenant. Enfin, je veux dire, à ce compte-là, il n'y a plus aucun lien de confiance qui existe entre les gens. On pense qu'à soi, on ne cherche pas à perpétuer pour ceux qui viendront après. Et c'est sinistre, et c'est le signe d'une société qui se suscite quand même. C'est ça vraiment que je trouve intéressant là-dedans. C'est le cœur du spectacle, c'est ça. Tout est structuré autour de ça.
C'était ma rencontre avec Le Dîner chez les Français de Valérie Giscard d'Estaing, une pièce de théâtre que je vous recommande très vivement d'aller voir. Merci Léo Cohen-Paperman pour cette rencontre.